journal Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. Un fort avis de tempête sur le sud-ouest pour la nuit. 14 départements en vigilance orange. Une tempête qui gagnera progressivement la Corse, où la région d'Ajaccio notamment est déjà touchée par les inondations. La ville d'Ajaccio sera dans la soirée interdite d'accès. Pas de trêve pour la grève contre la réforme des retraites. Le trafic RATP sera réduit à sa plus simple expression demain à Paris. Seules les deux lignes automatiques seront en circulation. Rien de changé à la SNCF qui prévoit un TGV sur deux, 30% des TER. 33 terroristes tués au Mali par l'armée française. C'est le président de la République en déplacement dans Côte d'Ivoire qui en a fait l'annonce, en saluant l'engagement des soldats français au service de toute une région et de notre propre sécurité. Dans ce journal également, deux adolescents en garde à vue à Juvisy dans l'Essonne pour le viol d'une jeune fille qu'ils ont filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Une décennie de smartphones, justement. Qu'avons-nous fait de cet outil qui a changé nos vies? C'est ce que nous dira Christine Siméon dans sa vie connectée. Et puis 3 millions d'hectares partis en fumée en 3 mois, les incendies se multiplient en Australie et menacent aujourd'hui Sydney.
France Inter.
On ne passe plus vers Ajaccio ce soir. Tous les accès seront bloqués à partir de 21h par précaution. C'est une tempête de forte intensité qui est annoncée sur l'ensemble de l'île où les fortes pluies de la nuit dernière ont déjà provoqué d'importantes inondations. L'aéroport d'Ajaccio a été évacué et fermé. Tous les habitants de la région invités à éviter les déplacements. Alain Charrier, le secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud, au téléphone de France Bleu Radio Corse, Fréquenza Mora.
Compte tenu des précipitations que l'on attend à partir de 21h en particulier, pour toute la nuit, il convient d'être prudent et donc de limiter, mais complètement, l'ensemble des circulations sur Ajaccio en entrant et en sortant. Parce que les linéaires routiers vont être coupés, vont être inondés. Et je ne veux pas, et nous ne souhaitons pas, que les gens soient pris au piège dans leur voiture pour éviter tous les désagréments, voire plus. Et de surcroît, nous aurons ce soir en plus un coup de vent qui va durer quand même relativement longtemps, voire jusqu'à demain soir, un coup de vent qui nous prévoit des vitesses extrêmement importantes. Et pour arranger tout cela, nous aurons aussi une houle en mer très importante. Donc, il faut être extrêmement prudent et ne pas se balader sur le bord des plages. Bien sûr, sur les bords des jetées, ça peut être extrêmement dangereux car nous aurons des vagues très, très importantes.
Et les liaisons maritimes avec le continent seront aussi évidemment fortement perturbées. Ce soir, c'est dans le sud-ouest que 14 départements sont en vigilance orange au vent violent. Le bulletin météo complet en fin de journal. Sur le front de la grève, rien de changé. Il n'y aura pas de trêve pour Noël, on le sait. Le trafic reste très perturbé ce week-end. Un TGV sur deux en moyenne. 30% des TER, 20% des Transiliens. Toutes les lignes de métro seront fermées demain à Paris, à l'exception des deux lignes automatiques. Il faudra donc se reporter au trafic de surface avec en moyenne 2 bus sur 3. Circulation normale pour les tramways. Ce samedi, pour le premier week-end des vacances, il n'y a pas eu de cohue dans les gares, comme si tout le monde avait pris ses dispositions. Et malgré les difficultés, beaucoup ont fini par arriver à bon port. Illustration ce soir en gare de Matabiau à Toulouse. Clémence Fuléda.
À l'arrivée de l'un des deux seuls Paris-Toulouse de la journée, Maguelone laisse éclater sa joie.
Oh, Toulouse ! Et Trigourg se nuit, on a dormi un quart d'heure. Et très heureuse de retrouver Toulouse, c'est une ville que j'adore et c'est ma ville de cœur. Ça a été, mais c'était pas celui qu'on avait prévu, puisqu'en fait, le train que mon frère a pris pour nous deux a été annulé et ils nous l'ont déplacé sur le même jour, donc ça va.
Flavie et Justine, elles aussi, ont réussi à arriver de la capitale, finalement, sans trop d'embûches.
On nous a annulé le premier, on nous a déplacé celui de midi à 8h ce matin. Donc voilà, un peu contraignant pour les horaires, mais sinon nickel. On s'attendait, franchement, on y est même allé à l'avance, très tôt ce matin, mais pour rien. Il n'y avait pas de retard, rien, nickel.
On attendait déjà d'arriver à destination pour prendre un retour. Donc là, on va prendre un retour aujourd'hui. Au pire des cas, on va louer une voiture. Au pire, voilà.
Louer une voiture, ça n'a pas été possible pour elle en Ile-de-France. Tout était pris. Mais Flavie et Justine pourraient aussi avoir une mauvaise surprise puisqu'à côté de la gare Matabiau, c'est la ruée chez les loueurs, comme l'explique la chargée d'accueil, Flora.
Sur Toulouse, c'est pareil, que ce soit aéroport ou gare. Toutes les voitures sont réservées, il n'y a plus aucun rab, du coup, nulle part.
Une situation pas inédite, mais très rare dans la ville rose. À Toulouse, Clémence Fuléda pour France Inter.
Voilà, situation difficile pour les voyageurs qui restent partagés, malgré tout, sur la grève que beaucoup comprennent, même s'ils auraient souhaité la trêve. Pour les grévistes, en revanche, c'eût été prendre un risque pour la suite du mouvement, comme le dit ce cheminot qui manifestait tout à l'heure à Besançon en compagnie de quelques 200 enseignants retraités et gilets jaunes.
La trêve, ça a été quelque chose qui a été instillé pour essayer, en plus chez les cheminots, de semer le doute. C'est bon enfant, ça fait partie du jeu. Mais la trêve, nous, on n'a jamais voulu. Le gouvernement ne fait jamais de trêve, lui, dans les lois, dans la dureté sociale. Faire une trêve, il y en a certains qui ne reprendraient pas. Au bout de 15 jours, si on fait une trêve, s'il y en a qui s'arrêtent, certains collègues s'arrêteraient. Il y en a qui en ont peut-être un petit peu marre, qui se diraient, moi j'arrête, je ne reprends pas. Donc il faut continuer. Pour moi, la trêve, c'était vraiment pas quelque chose d'envisageable, sinon c'est... On va s'entretuer, on va mourir, quoi. Tant pis, il y aura peut-être des personnes, des dommages collatéraux. Voilà, c'est désolé, hein, mais c'est comme ça. Il y en a certains, lorsqu'il y a d'autres réformes qui sont faites, il y a d'autres dommages collatéraux. Certaines fois, on les oublie, mais là, il y a tellement d'enjeux. Là, il ne faut surtout pas de trêve.
Voilà, un cheminot de Besançon au micro de Virginie Vandeville. Deux adolescents en garde à vue dans l'Essonne, près de Paris. Deux ados de 16 ans soupçonnés d'avoir violé une jeune fille, également mineure, dans une cage d'escalier et d'avoir diffusé la scène sur les réseaux sociaux. Laura Lavenne.
Deux jeunes hommes, deux mineurs placés en garde à vue cette nuit au commissariat de Juvisy-sur-Orge. L'un pour être l'auteur présumé de ce qui semble être un acte sexuel infligé sous la contrainte et la menace. L'autre pour avoir filmé cette scène il y a un peu plus d'une semaine à Morsang-sur-Orge, dans laquelle on voit une femme se faire insulter, menacer, puis violée dans une cage d'escalier. Scène insoutenable d'une rare violence que la police appelle à ne pas relayer. Sur son compte Twitter ce matin, elle explique par ailleurs que ce sont les dizaines de signalements déposés sur la plateforme Pharos, la plateforme de signalement de crimes et délits en ligne, qui ont permis d'identifier l'agresseur et son complice, d'identifier aussi la victime, une jeune femme, elle aussi mineure, qui n'a jusqu'à présent pas porter plainte.
L'un des deux mineurs s'est rendu de lui-même au commissariat de Juvisy où il a reconnu les faits. L'autre a été arrêté dans la soirée d'hier.
France Inter. Yves Decamp.
Bâtir une relation nouvelle et décomplexée entre la France et l'Afrique, c'est l'ambition maintes fois répétée par Emmanuel Macron qui l'a redit ce samedi en Côte d'Ivoire en visitant notamment un complexe sportif financé en partie par la France. Le chef de l'État qui a aussi rappelé devant la communauté française l'engagement de la France auprès des pays du Sahel confrontés au terrorisme en faisant part d'un nouveau succès de la force Barkhane ce matin au Mali où 33 terroristes ont été tués, on dit neutralisés en langage militaire. Bertrand Galichet.
Ce coup porté aux djihadistes du Sahel est annoncé par le président français à quelques heures du lancement de l'Académie internationale antiterroriste, l'une des étapes de son déplacement officiel ici en Côte d'Ivoire. Une visite au cours de laquelle le chef de l'État martèle sa volonté de renforcer l'opération Barkhane à laquelle contribuent les forces françaises en Côte d'Ivoire, mais aussi d'impliquer davantage la communauté internationale.
Il s'agira de former en Côte d'Ivoire les forces spécialisées de l'ensemble de l'Afrique et peut-être au-delà. Cette lutte, nous la poursuivrons au Sahel. Nous avons eu des pertes, nous avons aussi des victoires. Ce matin, grâce à l'engagement de nos soldats et de l'opération Barkhane, nous avons pu neutraliser, dans la région de Mopti, 33 terroristes, faire un prisonnier et libérer deux gendarmes maliens qui étaient jusqu'alors pris en otage. Ce succès considérable, c'est l'engagement de nos forces. C'est le soutien que nous apportons au Mali, à la région, à notre propre sécurité.
Les questions sécuritaires restent au cœur de cette visite en Côte d'Ivoire. Demain, le président est attendu à Bouaké, au centre du pays, pour rendre hommage aux 9 militaires français tués là-bas par l'aviation ivoirienne il y a 15 ans. Abidjan, Hélène Langlois, Bertrand Galichet, France Inter.
Bientôt, les Américains nous demanderont d'arrêter de respirer. Réaction sans ambiguïté d'une porte-parole des affaires étrangères en Russie ce soir après l'annonce de nouvelles sanctions par Washington. Des sanctions visant cette fois toutes les entreprises participant à la construction d'un gazoduc russe appelé Nord Stream 2. Gigantesque investissement reliant la Russie à l'Europe est d'ailleurs quasiment terminé, mais qui selon les Américains va accroître la dépendance des Européens vis-à-vis de Moscou. Une entreprise suisse engagée aux côtés du groupe russe Gazprom a déjà annoncé qu'elle suspendait ses travaux. Pour l'Union européenne, en revanche, et surtout pour l'Allemagne, cette décision américaine est inacceptable. Nathalie Versieux à Berlin.
Le projet Nord Stream 2 est stratégique pour Berlin. Ce gazoduc de 2000 km sous la mer Baltique doit permettre d'approvisionner l'Allemagne et une partie de l'Europe en gaz russe sans transiter par la Pologne et l'Ukraine. En Allemagne, une grande partie de la population se chauffe au gaz russe, ressource plus précieuse que jamais à l'heure où le pays s'apprête à fermer toutes ses centrales nucléaires et ses mines de charbon pour des raisons environnementales. Washington voit le projet d'un mauvais œil parce que Donald Trump souhaite vendre davantage de gaz de schiste, estime-t-on, à Berlin. Jusqu'en octobre dernier, le projet était de facto bloqué à cause du Danemark qui refusait la construction dans ses eaux territoriales. Copenhague est depuis revenu sur son veto, d'où les sanctions décrétées par Washington. La compagnie suisso-néerlandaise Allseas, spécialisée dans la pose de conduits sous-marins, a aussitôt annoncé son retrait du projet. Il reste 300 km à construire, 300 km qui menacent désormais l'ensemble du projet. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
Au Vatican, le pape François continue de secouer la curie romaine en l'appelant à changer de mentalité. Nous ne sommes plus en chrétienté, a expliqué le pape en prenant acte de la perte d'influence de l'Église. La foi, a poursuivi le souverain pontife, n'est plus un présupposé évident du vivre ensemble. Pire, elle est souvent niée, raillée, marginalisée, ce qui implique selon lui de s'engager aujourd'hui dans des changements significatifs, des changements auxquels s'oppose justement toujours une partie de la curie. Et puis c'est l'hiver dans l'hémisphère nord. On en a parlé, mais c'est l'été au sud. Et quel été ! En Australie, c'est une chaleur accablante qui est tombée, notamment sur la côte orientale, où les incendies se multiplient depuis des semaines. 3 millions d'hectares sont partis en fumée depuis septembre, soit l'équivalent de la Belgique. L'état d'urgence a été déclaré. Et la situation ne fait qu'empirer dans la région de Sydney, Élise Delève.
Et oui, dans cette région, le combat que mènent les pompiers australiens est presque sans fin. Ils font face au cauchemar des hommes du feu, de la sécheresse, de la chaleur et du vent. À cause de ces conditions qualifiées de catastrophiques par les autorités australiennes, leur travail est presque inutile. Ils sont démunis face aux 200 incendies qui ravagent le pays. Car à cause de la sécheresse, le feu part très vite. À cause du vent, la vitesse de propagation des flammes augmente et la chaleur n'arrange rien. Il fait en ce moment plus de 40 degrés dans l'est de l'Australie. Les incendies sont incontrôlables et imprévisibles. Ce pompier volontaire interrogé par nos confrères australiens est épuisé.
Je ne sais même pas quoi dire. Trop, c'est trop. Je ne peux pas continuer comme ça, jour après jour. Mais on est obligé.
Dans les régions les plus touchées, les secours frappent à toutes les portes pour faire évacuer les habitants en danger. 700 maisons ont été détruites et 9 personnes sont mortes, dont 2 pompiers en intervention. Les flammes encerclent Sydney. La ville est étouffée par des fumées noires. 2 routes majeures ont été fermées aujourd'hui et les autorités demandent aux habitants de retarder leur départ. Comme en France, les familles sont nombreuses à partir pour les fêtes de Noël. Seul espoir pour les pompiers, une bonne pluie. Mais selon les spécialistes météo, aucune pluie abondante n'est prévue dans les 2 prochains mois.
Élise Delève. C'est un outil qui a changé nos vies, pour le pire, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi le meilleur dans la vie connectée de Christine Siméon ce soir. Retour sur une décennie de connexion, c'est-à-dire l'adoption du smartphone par la majorité des Français. Qu'en avons-nous fait ? Bonsoir Christine.
Bonsoir à tous.
Réveil, agenda, carnet de notes, album photo, il ne manque plus que le café dans nos smartphones. Avec cet appareil, nos vies connectées s'en sont trouvées changées.
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
Vous vous souvenez de cette musique qui nous a tant saoulés ? Le Gangnam Style, c'était en 2012. Ce hit coréen est resté en tête du nombre de vues sur YouTube pendant 5 ans. Cela fait partie des gentilles petites horreurs qui ont fait la décennie du smartphone, comme Candy Crush par exemple. Je passe vite sur la folie Pokémon Go ou sur Fortnite qui ont affolé nos tout petits écrans. Je m'arrête sur le grand écran, le cinéma, qui est entré dans les petites lucarnes de Netflix. Netflix qui est dans les foyers français depuis 2014. Un tiers du trafic se fait désormais sur smartphone, ce qui désole le réalisateur Martin Scorsese.
You know how strong I made you.
President Kennedy has been assassinated. I know things they don't know I know.
Alors qu'on annonçait son Irishman comme un chef-d'œuvre, Scorsese suppliait les spectateurs de ne pas le regarder sur de si petits écrans. Sinon, à quoi bon se donner du mal ?
D'ailleurs, a-t-on inventé la 4G et le smartphone pour cela ?
Non, sûrement pas, mais ce qui est certain, c'est que désormais, il se vend environ 1,5 milliard de smartphones par an dans le monde. Cette progression signifie aussi l'explosion de données de masse. Qui dit données de masse dit information sur les utilisateurs, pistage, marketing, marché des données, un nouveau monde pour les marchands. En 2013, l'Américain Edward Snowden, agent de la NSA, nous informait que toutes ces données ne sont pas forcément recueillies pour nous protéger, au contraire. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, c'est pire. Le New York Times a révélé cette semaine qu'il avait mis la main sur les données personnelles de 12 millions d'Américains. Les données de localisation fournies par les téléphones permettent très facilement d'identifier les personnes et leurs faits et gestes. Ils ont même réussi, au New York Times, à identifier un ingénieur de chez Microsoft au moment où il passait des entretiens d'embauche chez Amazon. Je laisse la conclusion à Edward Snowden lorsqu'il s'exprimait cet automne sur France Inter.
Bien sûr, il y a encore des surveillances de masse. Et maintenant, des entreprises deviennent de plus en plus intrépides. Elles le font aussi et collaborent avec le gouvernement. Et cette tendance va se poursuivre jusqu'à socialement, nous tous, ensemble, commencions à travailler pour changer cela. Et nous avons la possibilité de le changer une fois que nous connaîtrons les fondamentaux de ce qui se passe réellement. Maintenant, nous le savons.
Eh bien là, je crois que les fondamentaux du smartphone, on les connaît et on peut l'éteindre.
Et oui, le smartphone, c'est aussi l'explosion des réseaux sociaux. La vie connectée de Christine Siméon à retrouver, bien sûr, sur franceinter.fr. Les obsèques d'Anna Karina ce matin à Paris, Birkin, Berling, Cotillard, Cornillac, Irène Jacob ou encore Philippe Catherine. Le ministre de la Culture, Franck Riester, également était là pour un dernier adieu à l'actrice, icône de la nouvelle vague, décédée samedi dernier à 79 ans. En sport, beaucoup de monde au Grand Bornand ce samedi pour une étape française de la Coupe du Monde. En l'occurrence, de biathlon, Coupe du Monde de biathlon, en l'occurrence l'épreuve de poursuite, sans grand succès d'ailleurs pour les Français. Justine Brezza, qui était arrivée deuxième du sprint hier, n'a pu faire mieux que cinquième, première française. Chez les garçons, c'est un peu mieux, derrière l'incontournable norvégien Jonas Bø, Quentin Fillon-Maillet, déjà deuxième au sprint, lui aussi a réussi à récidiver en poursuite. Fanny Lechevestrier.
Il va falloir s'y habituer, désormais ce sont des Quentin qui s'échappent des tribunes du Grand Bornand. Cet après-midi, comme jeudi, il n'y en avait que pour le Jurassien de 27 ans. Deuxième course ici et donc deuxième podium, battu seulement aujourd'hui par le patron du biathlon mondial, le Norvégien Jonas Bø. Alors forcément, Quentin Fillon-Maillet, le sourire jusqu'aux oreilles, savoure cette nouvelle notoriété, quitte même à en perdre Louis.
J'en avais presque mal aux oreilles dans le dernier tour, tellement sacré, mais ça donne les frissons. C'est des journées qui seront gravées à tout jamais dans ma mémoire, parce que c'est des journées exceptionnelles. Si on m'avait dit que je faisais deux podiums en Coupe du Monde à la maison, je signais tout de suite.
Lui, le perfectionniste, qui va jusqu'à concevoir sa carabine, longtemps cantonnée au rôle du besogneux qui ne lâche rien, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de Morbac. Mais aujourd'hui, le Français que l'on redoute, c'est bien lui, sérieux candidat pour le gros globe de cristal en fin de saison. Lui qui suscite l'admiration de ses coéquipiers comme Simon Détieux.
Il est dans une dynamique de fou, il est bon, il est opportuniste, il sait faire tout ça et il grandit de jour en jour.
Et s'il grandit encore après une troisième place jeudi, une deuxième ce samedi, c'est donc la victoire qui lui tend les bras dès demain sur la Mastart. Au Grand Bornand, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Avec trois Français dans le top 10, puisqu'il y a aussi Émilien Jacquelin, 6e, et Martin Fourcade, 7e. Autre résultat de la journée sur la neige en ski de fond, la première victoire du sprinteur Lucas Chavana qui prend la tête au classement général du sprint. Et puis en snowboard cross, un beau tir groupé des tricolores. Chloé Trespech, 2e chez les dames, et Merlin Suget, 3e chez les garçons. C'est son premier podium individuel. Enfin en rugby, trois résultats du top 14, la chute du leader lyonnais à Castres, 29-12, la victoire du Racing sur Montpellier, 29-25, et puis le match nul, Bayonne-Brive, 6 partout. Le temps.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poules en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
Des vents tempétueux vont traverser le sud du pays ces prochaines heures, de la Nouvelle-Aquitaine vers la Corse, à partir de la façade océanique ce soir, avec des rafales pour le quart sud-ouest jusqu'à 140 km à l'heure sur les départements côtiers, 120 dans les terres, le tout sous la pluie, parfois même les orages, près de l'océan. En arrivant en Méditerranée, ce temps perturbé va donner en seconde partie de nuit prochaine des rafales à plus de 150 km à l'heure sur les crêtes et les caps corses, le tout accompagné d'un certain nombre de départements en vigilance orange pour visualiser ceux concernés par la tempête et d'autres phénomènes annexes. Vous référez directement à la carte de vigilance sur le www.météofrance.com. Demain, le vent va baisser d'un cran dans le sud-ouest, mais rester fort en Méditerranée, avec pour la moitié nord du pays un ciel variable ponctué d'averses, du soleil autour de la Méditerranée, mais souvent de la pluie de l'Aquitaine aux Alpes, avec de forts cumuls de neige à moyenne altitude, notamment du Jura à la chaîne alpine, donnant un fort risque d'avalanche sur les Alpes.